Les terroristes entrent groupés dans le bâtiment. Mais à l'intérieur de l'appartement, un des athlètes est alerté par les bruits dans le couloir. Moshe Weinberg, un des sportifs, cherche à se rebeller avant d'être atteint par une balle au visage. Dans une chambre, les assaillants ont donc réuni 10 sportifs israéliens, dont un est déjà mort.
Pour moi, c'est une date qui a changé le monde.
Les Jeux Olympiques disparaissaient sous la prise d'otages.
C'est une image qui m'a hanté pendant des années.
Personne n'était prêt pour cet événement terrible.
Comment négocier face à des terroristes sans en avoir jamais fait l'expérience ? Voici le cas d'une prise d'otage qui a marqué l'histoire, celle de la délégation israélienne aux Jeux Olympiques de Munich en 1972.
C'était comme au théâtre. On voyait des gens sur scène sans vraiment réaliser que c'était la réalité.
Nous devions nous tenir prêts afin de lancer l'attaque.
Forces de l'ordre, membres du RAID et du GIGN, famille et témoins, ils livrent les dessous de cette incroyable prise d'otage.
Il y a une diversion qui déclenche l'opération et la vitesse d'exécution est la garantie de libération des otages.
C'était la préparation la plus totale. Sincèrement, les Allemands ont bricolé. Tout ce qui pouvait tourner mal a mal tourné.
Comment les négociateurs ont-ils géré cette crise à la résolution catastrophique ? Pour y répondre, Marwan Mehri et Laurent Combalbert, deux négociateurs professionnels.
La difficulté sur Munich, c'est qu'on a agrégé le rôle de négociateurs et de décideurs.
Ils sont prêts à repousser l'ultimatum parce qu'ils bénéficient d'une couverture médiatique internationale.
Face au danger, face à la peur, ils tentent de convaincre. Les négociateurs. Lundi 4 septembre 1972, Munich. Les Jeux Olympiques d'été ont commencé depuis bientôt 2 semaines. Et en pleine période de guerre froide, l'enjeu est grand pour l'Allemagne.
Les organisateurs voulaient saisir cette chance pour montrer une nouvelle Allemagne. Moderne, dans l'air du temps, pacifique.
C'était un événement très important. Ils accueillaient le monde entier.
Charles Bietri est alors correspondant de l'agence France Presse. Il couvre la compétition sportive.
Ça fait un peu cliché de parler de la trêve olympique, de parler de la paix, de parler des branches d'olivier, de parler des colombes qu'on lançait le premier jour des Jeux. Ça fait un peu cliché, mais c'était ça. C'était ça, les Jeux Olympiques.
Les Jeux Olympiques, c'est un événement, mais c'est aussi un village dans la ville. Plus de 7000 athlètes du monde entier cohabitent pour le sport et dans la fête.
Un village olympique, c'est presque comme un village de vacances. Vous avez des bungalows. Là, c'était des petits immeubles blancs. Ils sont les uns à côté des autres. Et puis les délégations vivent chacune, en règle générale, dans un petit immeuble.
Dans le village olympique, il se passait plein de choses. Il y avait des films tous les soirs, on dansait, c'était merveilleux.
Si tout est fait pour envoyer une image de fête, c'est parce que l'Allemagne a des choses à faire oublier. La dernière fois que le pays a accueilli les Jeux, c'était en 1936, sous le régime nazi, avec Hitler aux commandes.
C'était une Allemagne différente, très différente. Et ils souhaitaient que les gens se rendent compte que ce passé était loin derrière.
That was then and this is now.
En 1972, Heinz Hohensinn est agent de police dans la ville. Son équipement lui interdit d'entrer dans le périmètre.
En tant qu'agent armé, nous n'avions pas le droit d'entrer dans la zone olympique. Cela nous était interdit.
Mathias Dalqueux est chercheur. Il s'est spécialisé dans l'histoire très particulière de ces Jeux olympiques.
On voulait à tout prix éviter que l'on voie des uniformes, des armes, qu'il y ait une quelconque forme de souvenir ou de référence au JO de 1936.
Une délégation tient le rôle de symbole, celle des 14 athlètes israéliens. Pour eux, venir en Allemagne est une façon de montrer qu'ils adhèrent au projet de paix olympique, par-delà l'histoire.
On l'avait vu lors du défilé d'ouverture que la délégation israélienne avait été beaucoup applaudie, ce qui avait fait un peu chaud au cœur. Et c'est vrai qu'on avait eu tous un œil un petit peu attendri sur cette délégation.
Anki Spitzer est la femme d'André Spitzer, l'entraîneur d'escrime de l'équipe israélienne. En 1972, ils sont mariés depuis un an. Elle vient de donner naissance à une petite fille.
André croyait fermement à l'idéal olympique. Ce n'était pas facile pour eux, mais ils voulaient être là, la tête haute, pour faire partie de cette grande fête olympique.
Mardi 5 septembre, minuit. Pour la délégation israélienne, la journée se termine dans la bonne humeur.
Ils sont allés dans Munich pour voir une comédie musicale, tous ensemble. Puis ensuite, ils sont rentrés. Ensuite, j'ai parlé à André vers minuit. Je savais qu'il était bien arrivé, donc je suis allée me coucher.
Au 31 Konolichstrasse, où se trouvent les appartements de la délégation, les sportifs tombent dans un profond sommeil avant les compétitions du lendemain. Quelques heures plus tard, leur destin va basculer, comme celui des Jeux olympiques tout entiers. 4h10, la nuit semble tranquille au village olympique. Quand soudain, un groupe de 8 hommes arrive au niveau de la porte 25A, bordant le village olympique. Les portes sont fermées, ils escaladent les grilles, aidés par plusieurs sportifs.
Ils ont cru que c'était des gars qui avaient été faire la fête et qui rentraient au village et qui étaient des athlètes comme eux.
Pourtant, ces 8 hommes ne sont pas des champions.
Ils ont des joggings, des sacs de sport, mais ce ne sont pas des équipements dans les sacs, mais des kalachnikovs, des grenades, des couteaux.
Des terroristes, déguisés en sportifs. Et ils ont une cible bien déterminée.
Ils se rendent au 31 Konolichstrasse parce qu'ils savent que les Israéliens y sont hébergés.
Marwan Meri et Laurent Combalbert sont négociateurs professionnels. Ils analyseront toutes les étapes de la crise à venir.
On comprend une chose, c'est qu'il n'y a pas de place à l'improvisation. Ils connaissent l'endroit exact du bâtiment, ils ont un pass également pour pouvoir rentrer.
4h15, les terroristes entrent groupés dans le bâtiment, en silence. Un homme reste à la porte pour surveiller l'entrée.
La clé de cette opération pour les terroristes, c'est l'effet de surprise. Ils vont devoir capturer les athlètes pendant leur sommeil, ils vont devoir les figer dans un état de sidération le plus vite possible pour éviter une riposte ou pour éviter qu'ils ne viennent à s'échapper.
Mais à l'intérieur de l'appartement, un des athlètes est alerté par les bruits dans le couloir.
Le juge israélien Gutfreud était un homme très imposant. Il ouvre la porte de l'appartement et soudainement, il voit toutes les kalachnikovs pointées sur lui. Donc il cherche à pousser la porte avec le poids de son corps et il crie aux autres Israéliens « Terroriste ! Terroriste !»
L'alerte permet à certains athlètes de s'échapper par la fenêtre. Mais la résistance du coach ne dure pas longtemps et les assaillants parviennent rapidement à entrer dans l'appartement. Moshe Weinberg, un des sportifs, cherche à se rebeller avant d'être atteint par une balle au visage. Son corps est jeté devant le bâtiment. Les assaillants poursuivent l'opération. Ils rabattent l'ensemble des sportifs au premier étage. L'un d'eux, Joseph Romano, cherche aussi à résister. Il est abattu. Son corps est laissé au sol. Dans une chambre, les assaillants ont donc réuni 10 sportifs israéliens, dont un est déjà mort. Aucune chance ne leur est laissée pour s'échapper.
Pour l'instant, dans le feu de l'action, leur préoccupation, c'est d'attacher les otages entre eux, de les ligoter, de faire en sorte que les otages ne leur posent pas de problème, d'assurer la sécurité de l'immeuble et de l'appartement en faisant en sorte que les différents terroristes couvrent les zones d'accès et ne soient pas surpris par la police.
Cette action d'écrasement, elle est importante parce que les terroristes sont moins nombreux que les otages, mais ils doivent dès le début montrer qu'ils contrôlent, qu'ils maîtrisent.
L'attaque ne reste pas inaperçue. Au cours d'une patrouille, un agent de sécurité du village olympique surprend brusquement la silhouette d'un des assaillants. Il donne immédiatement l'alerte. À 5h30, le commissaire de police de Munich arrive dans le village olympique. Il s'appelle Manfred Schreiber. À la nouvelle d'intrus armés au cœur du site olympique, l'homme à la réputation bien trempée réalise la gravité de la situation.
Manfred Schreiber était à ce moment-là le chef de la police de Munich. On l'appelait le shérif de Munich.
Son rôle était surtout de s'occuper du bon ordre, des questions de stationnement et des petits problèmes de ce type, de la petite criminalité. Il s'occupait des affaires courantes dans la ville de Munich.
Son premier ordre est clair. Établir un périmètre de sécurité autour du bâtiment où les intrus armés ont été vus. Christian Proutot est le fondateur du GIGN. Pour lui, cette étape est indispensable au début de toute situation inconnue.
La règle, elle est simple, c'est fixer la crise. Donc éviter qu'elle déborde ou qu'elle se déplace. Il faut limiter la crise à l'endroit où elle se produit.
Grâce à la carte du village olympique, les autorités comprennent que la délégation israélienne est visée. Les représentants diplomatiques du pays sont immédiatement avertis. 5h45, alors que Manfred Schreiber vient d'arriver, une nouvelle glaçante lui parvient. Pendant qu'il mettait en place le cordon de sécurité, un des agents a retrouvé un corps au pied du bâtiment. Mortellement touché d'une balle au visage, il a été jeté du balcon. Il s'agit de l'athlète tué par les terroristes au début de leur opération.
C'est le corps de Moshe Weinberg, le coach de lutte. Il est le premier à être tué et mis devant le bâtiment. Terrifiant.
Ça, c'est grave, parce que ça veut dire que les gens armés qui sont rentrés dans le building dans lequel se trouvent les athlètes israéliens sont venus pour quelque chose de très sérieux, sont prêts au passage à l'acte.
Si vous intervenez, les autres subiront le même sort.
Manfred Schreiber est impuissant. Qui sont ces assaillants? Que veulent-ils? Les deux athlètes israéliens échappés au début de l'opération livrent des premiers éléments de réponse. Il y aurait 10 otages à l'intérieur. Les terroristes seraient armés, mais impossible en revanche de connaître leur nombre. À 6 heures, les policiers trouvent deux feuillets tapés à la machine, jetés depuis le balcon du bâtiment. En bas de ces papiers, une signature. Septembre Noir.
Septembre Noir est une organisation de combattants palestiniens. L'année précédente, ces terroristes avaient déjà réalisé quelques actions spectaculaires. Cette organisation est très mobile, répartie dans toute l'Europe et très bien connecté.
On est face aux plus radicaux, là. Ça, on le sait tout de suite.
Le basculement vers l'acte politique, il est fait. Il est fait, ça y est.
Les revendications sont précises. Une liste de 236 personnes à libérer au plus vite.
Ils voulaient faire libérer des gens de l'opposition palestinienne qui étaient retenus dans les prisons israéliennes.
L'ultimatum est fixé à 9h du matin. Sans quoi, chaque demi-heure ou chaque heure, un otage sera exécuté.
L'ultimatum va être l'élément structurant de la négociation à ce stade de l'opération. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est une menace forte de tuer les otages. C'est une menace qui est limitée dans le temps, avec un temps qui est relativement court, puisqu'on est censé pouvoir libérer 236 prisonniers politiques en quelques heures.
Aussi professionnel soit-il, le chef de la police locale est impuissant face à une situation d'ampleur diplomatique.
Bien sûr, il y a des plans de crise depuis plusieurs années. L'Allemagne a déjà connu des attentats à la bombe. Mais une prise d'otage avec des revendications politiques, ça, c'est tout à fait nouveau.
Sept heures. La prise d'otage a lieu depuis plus de 2h30. Les terroristes ont vu les choses en grand. Depuis le Moyen-Orient, ils ont simultanément diffusé un véritable communiqué de presse à toutes les grandes rédactions.
Nos forces révolutionnaires ont pénétré en force dans le pavillon israélien aux Jeux Olympiques de Munich pour obtenir que les autorités militaires israéliennes adoptent une position plus humaine à l'égard du peuple palestinien.
L'information ne tarde pas à faire le tour du monde. Avec 2000 équipes de télévision présentes pour les JO, le pavillon israélien est rapidement cerné de journalistes.
La situation est encore très confuse et personne ne peut actuellement approcher le bâtiment israélien isolé par la police.
La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre.
Les Palestiniens menacent de les fusiller si 200 prisonniers politiques ne sont pas libérés en Israël.
Barry Davis est alors journaliste sportif pour la BBC.
Je me souviens très bien, j'avais un point de vue sur ce bâtiment gris où rien ne se passait.
On se met là, on regarde, on ne quitte plus des yeux le bâtiment pour essayer de saisir une info, pour essayer de comprendre.
Cette présence massive de journalistes est au cœur de la stratégie des terroristes de Septembre Noir.
La manière dont cette prise d'otage a été effectuée, elle n'est pas simplement le fait de faire une agression dans le cadre des Jeux Olympiques, mais elle était surtout de fixer l'attention du monde sur le problème palestinien.
Si les terroristes cherchent une reconnaissance médiatique, ils ont déjà gagné.
On ne parlait plus que de ça.
7h15. La prise d'otage a lieu depuis 3 heures. Pour gérer la situation, une cellule de crise est installée dans une tour située à l'est du village olympique.
En 1972, la cellule de crise qu'on peut imaginer n'est pas du tout celle qu'on ferait aujourd'hui. On est dans l'empirisme. Donc une cellule de crise, c'est une réunion autour d'une table des gens qui ont l'autorité pour agir.
Autour de la table, Manfred Schreiber et son équipe, mais aussi Hans-Dietrich Genscher, le ministre de l'Intérieur d'Allemagne fédérale. Leur première initiative est de s'entretenir avec Golda Meir, première ministre d'Israël. Depuis les premières heures, elle suit l'avancée de la situation. Elle seule peut répondre aux attentes des terroristes.
On rentre dans un problème géopolitique très important.
Les autorités allemandes, à ce stade, sont dans l'expectative. Ils vont devoir attendre que Golda Meir, qui est le premier ministre israélien, décide ou pas si elle libère des prisonniers.
Les autorités allemandes ne peuvent pas faire grand-chose pour négocier. Sinon, récupérer le maximum d'informations, savoir ce qu'il se passe dans le bâtiment et trouver des idées pour résoudre ce problème.
Les Allemands arrivent à une première conclusion. Ils doivent gagner du temps, sans savoir comment s'y prendre.
Ce sont les balbutiements de la négociation, c'est très embryonnaire, parce qu'il n'y a pas d'équipe de négociateurs qui sont constituées, il n'y a pas non plus d'organisation tactique, il n'y a pas non plus d'expérience sur ce type de situation.
C'était l'impréparation la plus totale.
L'ultimatum est pour 9 heures. Il leur reste moins de 2 heures pour trouver une solution. 7h30. Depuis le début de l'attaque, rien ne laisse transparaître la situation à l'intérieur du bâtiment, lorsque soudain, au balcon du premier étage, un homme sort, cagoule sur la tête. C'est la première fois qu'un terroriste se montre. L'image est saisissante et fait le tour des télévisions.
C'est une image qui m'a hanté pendant des années.
Carlotto Sore est alors journaliste pour le Süddeutsche Zeitung. Il a les yeux rivés sur cette apparition.
C'était comme au théâtre. On voyait des gens sur scène sans vraiment réaliser que c'était la réalité.
C'est un homme au balcon, avec le visage couvert du nez à la bouche. Il est là et il observe ce qu'il se passe alentour.
On se rend rapidement compte qu'ils sont assez détendus, expérimentés. Ils ont des chapeaux, des masques sur le visage et des lunettes.
Ces premières observations permettent de tirer des informations précieuses sur le profil des terroristes.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont tous masquer leur visage. Aucun ne souhaite être reconnu. Et ça, c'est un bon signe dans une négociation, parce qu'un terroriste qui ne veut pas être reconnu, ça veut dire qu'il anticipe qu'il va se passer quelque chose après. Il ne va pas forcément rester là pour laisser sa vie dans la balance, pour mourir dans l'opération. Et ça, c'est plutôt un bon signe.
8h10. La prise d'otage a commencé il y a presque 4 heures. Une policière habillée en civil se présente devant le bâtiment. Son objectif, comprendre qui est le chef des terroristes. À peine est-elle arrivée, qu'un homme sort, cirage sur le visage et chapeau colonial vissé sur la tête.
Issa, en tout cas c'est comme ça qu'il se présente, dit qu'il est le chef de ces terroristes.
Apparemment on parle à celui qui contrôle, c'est au moins comme ça qu'il se présente. Il est calme, il est posé, il est grimé, hein, il a du cirage sur le visage et surtout il parle allemand, couramment. Donc il a été clairement choisi pour cette opération pour mener le commando et également mener la négociation, porter les revendications.
Voici le contenu de leurs échanges. Qu'est-ce que tout cela veut dire ?
Cela n'a rien à voir avec vous ou avec l'Allemagne.
Nous ne pouvons rien faire pour libérer tous ces prisonniers politiques en Israël. Nous ne pouvons que leur transmettre vos conditions.
Libérez tous ces prisonniers ou tous les otages vont mourir.
On s'aperçoit qu'on peut parler avec le chef des terroristes, mais que ses positions sont très claires et arrêtées.
Maintenant que la prise de contact a eu lieu, les autorités vont chercher à différer l'ultimatum, de façon complètement improvisée. 8h45, la prise d'otage a commencé depuis près de 4h30. Manfred Schreiber et le reste des autorités allemandes n'ont toujours aucune nouvelle de la première ministre d'Israël, Golda Meir. Elle est pourtant la seule à pouvoir répondre aux exigences des terroristes. Il ne leur reste que 15 minutes avant que l'ultimatum n'arrive à son terme.
À ce moment-là, l'atmosphère devient pesante, mais physiquement. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelque chose de lourd qui se met sur mes épaules et sur moi.
À chaque ultimatum, vous avez un peu plus l'impression de mourir. Ils en ont déjà tué un et jeté son corps. Et je me dis, à ce moment-là, qu'ils n'hésiteront pas à tuer un autre Israélien.
Cette fois-ci, ce n'est plus la femme au costume bleu qui se rend au contact des terroristes, mais le chef de la police de Munich lui-même, accompagné de la cellule de crise. Une stratégie qui apparaît aujourd'hui comme une erreur en négociation.
Les Allemands ont envie de montrer leur engagement, leur détermination. On met les décideurs au contact des terroristes. C'est un petit problème en négociation parce que dès lors que le décideur rentre au contact, il tombe à vision tactique. La prise de décision nécessite une vision stratégique avec du recul pour garder la tête froide et la vision globale.
En étant directement impliqué dans la négociation, les responsables pourraient manquer de distance critique sur la situation. Les négociations vont avoir lieu dans la rue, face à l'entrée du bâtiment.
C'était une partie de la stratégie des terroristes. Mener les négociations devant le bâtiment, comme ça personne ne pouvait savoir ce qu'il se passait à l'intérieur.
Ce type de face-à-face, je l'ai connu et je peux vous dire que c'est très tendu. Vous savez que la manière dont vous vous comportez peut être déterminante dans la réaction de celui qui est en face de vous. C'est un équilibre fragile. Il faut être crédible.
Si l'on ne connaît pas la teneur des échanges, on en connaît l'enjeu. Différer l'ultimatum. Le chef de la police affirme avoir besoin de plus de temps pour obtenir la libération des prisonniers par Israël. Issa accepte immédiatement. Si sa réaction peut sembler surprenante, pour Éric Dénessé, spécialiste des questions de renseignement, elle est surtout le signe que le chef des terroristes connaît les règles de la négociation.
Les terroristes ont intérêt dès le début à mettre la pression et puis ils vont relâcher un tout petit peu la corde sur le cou des autorités allemandes. Ils vont rester le maître du jeu dans cette négociation.
C'est une information capitale et structurante en négociation. À partir du moment où l'ultimatum est repoussé, on comprend que l'ultimatum est un moyen et non pas une finalité.
Ils ont affiché une liste de 236 prisonniers politiques, mais ils sont prêts à repousser l'ultimatum parce qu'ils bénéficient d'une couverture médiatique internationale. Et cette couverture médiatique, eh bien, elle va être donnée par le temps, par la durée de la prise d'otage.
Les Allemands pensent avoir gagné cette manche. Un nouvel ultimatum est fixé à midi. Il leur reste à présent 3 heures pour trouver une nouvelle solution. 9 heures. La prise d'otage a commencé depuis bientôt 5 heures. Pourtant, dans le village olympique, les jeux se poursuivent.
Il va y avoir un petit moment de flottement. Et puis les jeux vont continuer.
D'un côté, on essayait de maintenir l'image de jeu pacifique, et de l'autre côté, on essayait de résoudre cette prise d'otage sanglante.
C'est ahurissant que ça ait pu continuer.
Au centre de commandement, toujours aucune nouvelle de la première ministre d'Israël, Golda Meir. Schreiber et le reste de l'équipe ne voient pas d'issue possible.
La cellule de crise était dans l'impasse. Il n'avait pas d'informations. Il n'avait pas de signal positif de la part d'Israël. Il ne pouvait rien faire sinon espérer que l'ultimatum soit différé et qu'une autre bonne idée soit proposée.
À 10h, le chef de la police a une idée. Fort de son expérience du terrain, il propose aux terroristes d'échanger les otages contre de l'argent. Malheureusement, la réponse est négative.
C'est une véritable erreur que de proposer de l'argent à des combattants.
Ils n'ont pas demandé une rançon, ce ne sont pas des criminels, ce sont des terroristes politiques. Et en leur proposant de l'argent, on va avilir la situation qu'ils sont en train de monter, on va nier leurs revendications initiales. Et ça, c'est source de crispation, source de tension, parce que le terroriste peut imaginer qu'on n'a pas compris son souhait réel.
Un souhait réel qui, pour l'heure, ne peut être réalisé, faute de réponse côté israélien. Alors à 10h30, les négociateurs avancent un autre deal, s'échanger eux-mêmes contre les otages.
Je dois avouer qu'avec du recul, cette proposition des autorités allemandes est quand même très très surprenante.
C'est effectivement quelque chose qu'on ne fait pas. On ne le fait pas parce que d'abord on a besoin d'avoir les chefs hors de la situation de prise d'otage, évidemment. Mais en l'occurrence, ils sont certainement un peu perdus. Ils n'ont pas grand-chose à donner, mais ça va être également refusé par Paris A.
11h15. La prise d'otage a commencé depuis 7 heures. La première ministre israélienne, Golda Meir, répond enfin. Bien qu'horrifiée de voir des juifs à nouveau persécutés sur le sol allemand, son refus de négocier est catégorique.
C'est la douche froide pour les Allemands parce qu'ils comprennent que leur marge de manœuvre est extrêmement limitée, puisqu'à partir du moment où on ne peut pas libérer les otages, il va falloir gérer les preneurs d'otages.
Petit à petit, on est dans un entonnoir qui pousse à une situation qui va être de toute façon dramatique.
11h55. Il ne reste que 5 minutes avant l'ultimatum. J'ai l'impression de mourir. Je me dis, vont-ils les tuer à présent ? Quand soudain, Manfred Schreiber, le chef de la police de Munich, apparaît sur les écrans de télévision. Une nouvelle fois, il se rend au contact du chef des terroristes. Son plan est radical. Mentir à Issa, en lui affirmant qu'Israël organise la libération des prisonniers palestiniens et qu'ils ont besoin de plus de temps.
Le recours maintenant pour les Allemands, ça va être d'utiliser le bluff, le mensonge, parce qu'ils se disent si on ne peut rien proposer aux terroristes, le risque, c'est qu'ils abattent les otages. Donc ils vont utiliser une cartouche qui est très très risquée.
Ça fonctionne si l'assaut est prêt à être déclenché. En l'occurrence, il n'y a pas de groupe d'intervention, il n'y a pas de force de police spécialisée, personne ne sait faire ce genre d'assaut. Et donc là, on est en train de lancer une improvisation qui va s'enchaîner minute après minute.
Issa fixe une nouvelle limite à 17h. Mais les négociateurs le savent. Puisqu'Israël refuse de répondre aux revendications des preneurs d'otages, il ne leur reste en réalité qu'une solution, l'attaque. Seulement pour l'envisager, encore faut-il connaître le nombre de terroristes présents dans le bâtiment.
Les autorités allemandes sont dans une situation qui est quand même épouvantable, il faut le dire. À l'époque, on ne dispose pas de moyens techniques pour voir à travers les vitres fermées et avec les rideaux tirés. On ne dispose pas de micro-caméras que l'on peut introduire à travers un mur. On n'a pas les systèmes d'imagerie radar qui voient à travers les cloisons. Donc, en réalité, ils sont sourds et aveugles par rapport au nombre de terroristes, par rapport au nombre d'armes qu'utilisent les terroristes, par rapport au fait de savoir combien il reste d'otages en vie, est-ce que certains sont blessés, où est-ce qu'ils se situent dans les pièces.
C'était le problème majeur. On voyait toujours un ou deux terroristes devant le bâtiment, mais on n'avait aucune information à propos des otages. On ne pouvait rien savoir sur eux, ni sur tout ce qui pouvait se dérouler dans le bâtiment.
Derrière les murs de l'édifice, les 9 athlètes sont tenus captifs dans une chambre située au 2e étage. Le corps de Joseph Romano, le sportif tué au début de l'opération, est toujours au sol. Ils étaient assis là toute la journée, les pieds et les mains attachés à la table et au lit, les uns aux autres. Ils étaient au sol, assis à attendre. En sous-vêtements, puisqu'ils avaient été tirés du lit. Les 8 terroristes ont mis au point un système bien huilé.
On a d'abord les gardes. Les gardes vont rester au sein de la pièce où se trouvent les otages et leur travail, c'est de maîtriser toute tentative d'évasion.
Le système sécuritaire est primordial pour eux, pour s'assurer du contrôle des otages, pour s'assurer qu'ils ne s'échappent pas ou qu'ils cherchent à se rebeller.
On a ensuite ce qu'on appelle les veilleurs. Les veilleurs, eux, vont se positionner autour et vont regarder ce qui se passe à l'extérieur. Voir s'il y a une agitation particulière, mais surtout anticiper une opération de la police, prévenir, voire même riposter en cas d'une tentative d'intrusion par un agent de sécurité ou par un policier.
Ces éléments, personne à l'extérieur ne les connaît. À 16h, le chef de la police, Schreiber, demande à Issa une preuve que les otages sont vivants, afin de poursuivre les négociations.
C'est toujours dans ce jeu du chat et les souris qui se déroule dans le cadre d'une négociation où, nous on fait un pas en avant, vous voulez savoir combien il y a d'otages, on va vous le dire, regardez, on ne les a pas tous tués.
C'est d'une façon spectaculaire et très médiatique que les terroristes apportent la réponse.
Je regarde la télévision et soudain, les rideaux s'écartent, la fenêtre s'ouvre et voilà André. Je le vois attaché avec les mains dans le dos, il est en maillot de corps, il se tient au 2e étage et il parle.
Ça montre qu'ils sont vivants, qu'ils sont a priori en bonne santé et que donc la monnaie d'échange, en échange des prisonniers politiques, elle existe, elle est toujours là.
On lui demande où en est la situation avec les otages et André dit « Tout le monde est OK, sauf un ».
Except one.
Les négociateurs veulent connaître son identité, mais la conversation est brusquement interrompue.
Il reçoit un coup de crosse. Il est tiré en arrière dans la chambre. Les rideaux et la fenêtre se referment.
Si les terroristes interrompent brutalement la conversation, c'est pour une raison très précise.
Si l'otage devait communiquer le nombre de blessés, le nombre de morts, l'organisation tactique des terroristes, où ils se trouvent exactement sur les lieux, forcément, Issa perdrait énormément de pouvoir. Donc, pour éviter une perte de contrôle de la situation, il décide de clôturer ce round de négociation.
Il y a la manière de montrer que vous êtes jusqu'au boutiste et que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout et qu'il ne faut pas rigoler.
Une nouvelle fois, l'opération est un échec. Mais le chef de la police pense avoir un plan. Il est sur le point de lancer une opération à la surprise générale. 16h45. Cela fait plus de 12 heures que la prise d'otage a commencé quand soudain, Schreiber donne l'ordre d'une attaque. Nom de code, opération Sonnenschein. L'objectif est de faire descendre une équipe par les conduits d'aération situés sur le toit du bâtiment. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'existe pas de commando en Allemagne pour mener ce type d'action. Ce sont donc des policiers municipaux comme Heinz Hohensinn qui sont à la manœuvre. Ils sont déguisés en survêtements de sport pour se faire passer pour des athlètes.
Nous étions une équipe d'une douzaine de volontaires. On nous avait distribué des survêtements de sport et des casques de la Seconde Guerre mondiale.
On est dans l'improvisation totale. Il n'y a pas de groupe d'intervention, il n'y a même pas l'idée de ce qu'il faudrait faire pour organiser un plan tactique pour gérer ce type de cas. Donc c'est la cacophonie qu'on peut percevoir entre les survêtements d'un côté, les armes de l'autre, des policiers qui se dispersent.
Il s'agit d'officiers de police qui s'occupent de la circulation à Munich. Et ils sont censés éliminer les terroristes.
À ma connaissance, il n'y avait pas vraiment de stratégie d'intervention.
L'opération se déroule sous l'objectif des caméras. Ce que les autorités ignorent, c'est que les terroristes peuvent aussi en être témoins. Ils disposent d'une télévision dans la chambre.
Le monde entier peut voir ces policiers en train d'essayer de rentrer dans le bâtiment, mais les terroristes eux-mêmes peuvent les voir.
Ces images ont fait le tour du monde et on en parle encore aujourd'hui.
On va voir en direct l'ensemble de ces hommes se positionner sur le toit du bâtiment où se trouvent les athlètes pris en otage, mais également se disperser autour de ce bâtiment.
C'est une image ahurissante, hallucinante même.
Nous attendions que notre chef, Schreiber, donne le nom de code, Sonnenschein, pour pouvoir lancer l'assaut et libérer les otages.
Au même moment, les terroristes semblent particulièrement agités au balcon de l'immeuble. Il n'en faut pas plus aux autorités pour comprendre que les preneurs d'otages sont également spectateurs de la scène. Alors que l'ultimatum arrive à son terme, l'opération Sonnenschein est immédiatement avortée. 16h55, plus que 5 minutes avant que l'ultimatum n'arrive à son terme. 13h bientôt que les négociations ont commencé sans qu'elles n'aboutissent.
C'était un jour particulièrement tendu. Chaque heure était pire. Chaque heure, on se rendait compte qu'il n'y aurait pas de solution.
Là, le problème, il devenait crucial. Et là, on commençait à se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer ?
Contre toute attente, la solution va venir des terroristes. Dans la cellule de crise, Schreiber décroche le téléphone et c'est Issa au bout du fil. Sa demande a radicalement changé. Il demande un avion pour partir avec le reste des otages en direction de l'Égypte. Dans la négociation, c'est un tournant capital.
Là, apparemment, nous, on ne parle plus des prisonniers libérés, on parle de leur départ.
On comprend qu'ils ne sont pas prêts à mourir pour leur cause. Donc c'est très intéressant. Ils veulent maintenant simplement s'échapper. Donc ce ne sont pas des jusqu'au-boutistes. Ça nous permet comprendre une chose, c'est qu'avec la position qu'ils affichaient, la libération des prisonniers politiques, n'était pas forcément leur véritable enjeu. Leur véritable enjeu, c'était la reconnaissance médiatique.
Les autorités acceptent l'offre sans hésiter, car pour eux, c'est l'occasion d'un chantage. Ils affréteront bien un avion pour les terroristes, à condition de pouvoir eux-mêmes entrer dans le bâtiment afin de s'assurer de l'état de santé des otages. Issa se plie à cette condition. Pour la première fois de la journée, les Allemands vont pouvoir recueillir des informations.
C'est un moment unique puisqu'ils vont rentrer au cœur du siège.
Là maintenant, on va observer tout ce qui est possible. Les personnes qui vont rentrer à l'intérieur vont compter les terroristes, vont décrire leurs vêtements, vont regarder leurs armements, vont observer leurs attitudes, essayer de comprendre s'il y a des subalternes et s'il y a des chefs d'équipe, par exemple.
Les négociateurs s'adressent également aux otages.
Ils ont demandé à chacun s'il avait un message. André a dit qu'il espérait que tout le monde soit bientôt libéré, qu'il nous aimait, moi et notre fille Anouk, et qu'il espérait que nous soyons bientôt ensemble à la maison.
Pour les Allemands, c'est aussi une chance inespérée de compter le nombre de terroristes.
Les témoins oculaires avaient compté en tout et pour tout 5 terroristes.
Ils vont ressortir en étant persuadés qu'il n'y a que 5 terroristes à éliminer.
Le chiffre est immédiatement communiqué aux autorités. Une opération est montée, se basant entièrement sur cette information. Les terroristes sont en réalité bien plus nombreux. 18h. Dans la cellule de crise, presque 14 heures depuis le début de la prise d'otage. Pour la première fois, Schreiber et son équipe retrouvent confiance. Cette demande des terroristes est une occasion de reprendre la main.
Ce changement de configuration est très intéressant pour les autorités allemandes. Elles croient qu'elles ont suffisamment d'informations, elles ont un nombre de terroristes, elles savent combien il reste d'otages.
À ce stade, on a une occasion qui ne s'est pas encore présentée, c'est-à-dire c'est une des premières fois où ils ont le pouvoir de faire quelque chose et de donner satisfaction aux preneurs d'otages.
Un plan se dessine, un piège tendu aux terroristes avec pour théâtre la base militaire de Fürstenfeldbruck, située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de là.
Ils décident de prendre Fürstenfeldbruck parce que c'est un aéroport militaire.
Tout poussait à ce que le choix se porte sur Fürstenfeldbruck.
Les Allemands maîtrisent parfaitement la configuration de cet aéroport, éloigné des regards indiscrets par toute une série de clôtures de sécurité. L'idée d'y faire venir les terroristes en hélicoptère depuis Munich est de placer sur le tarmac un Boeing 727 pour faire croire à leur départ imminent. 5 tireurs d'élite les viseront au moment opportun. Au centre du dispositif, un bâtiment pourra accueillir la cellule de crise allemande. Harald Meyer est alors élève pilote sur cette base militaire.
C'est une tour avec une vue imprenable vers le nord, où les deux hélicoptères allaient être parqués. Et de l'autre côté, en tournant la tête à 90 degrés, il y avait une vue parfaite sur le Boeing 727. Et puis au-dessus, une tourelle.
L'opération repose sur un piège tendu aux terroristes à l'intérieur du Boeing 727. 16 policiers y sont en fait déguisés en membres d'équipage.
Ce qui était organisé, c'est que nous soyons prêts, habillés en steward, afin de lancer l'attaque.
Le plan qui a été pensé, c'est de faire monter le chef du commando et éventuellement son adjoint dans l'avion pour aller vérifier que l'avion est opérationnel, qu'il y a un pilote aux commandes et qu'on peut partir. Les policiers déguisés en steward ont pour mission de neutraliser la tête du commando et on pense qu'en sortant Issa du jeu, eh bien on va désorganiser le commando.
Il y a une diversion qui déclenche l'opération et la vitesse d'exécution est la garantie de libération des otages.
La nuit tombe sur Munich. Négociateurs et terroristes pensent que le dénouement est proche. Personne ne s'attend en réalité au tour que vont prendre les événements. 22 heures, presque 18 heures depuis le début de la prise d'otage. Un minibus se gare face au parking souterrain de l'immeuble de la délégation israélienne. Issa et le reste des terroristes s'engouffrent dans le véhicule, accompagnés des otages.
Monte dans les bus. Et c'est là, ça permet de compter combien il y a de personnes et de voir que les terroristes sont 8.
Personne ne retransmet l'information aux snipers qui se sont positionnés pour réceptionner 5 terroristes.
Le minibus parcourt quelques centaines de mètres avant que les terroristes et leurs otages ne s'engouffrent dans les hélicoptères. Il est 22h05 quand il décolle en direction de l'aéroport de Fürstenfeldbruck. Sur la base militaire, le plan des autorités ne va pas du tout se passer comme prévu. À l'aéroport, les équipes apprennent que les hélicoptères sont en route. Dans la tour de contrôle, l'ensemble de la cellule de crise est en place. Mais brusquement, alors que les terroristes sont sur le point d'arriver, les policiers déguisés en stewards dans l'avion sont pris de panique. Heinz Hohensinn fait partie de ceux mobilisés sur cette opération.
Je me suis fermement opposé à cette intervention. L'appareil était plein d'essence et les terroristes disposaient de grenades. Cela leur était la mort assurée.
Ils décident de voter à main levée et ils vont tous lever la main en considérant qu'ils ne sont pas prêts pour ce type de mission.
Ils sont descendus de l'avion, ils sont partis.
Le plan entier est tombé à l'eau à ce moment-là.
22h30, les deux hélicoptères arrivent au-dessus du tarmac de Fürstenfeldbruck. Autorités et tireurs retiennent leur souffle. À peine arrivés, Issa, accompagné d'un autre terroriste, se dirige vers l'avion pour s'assurer qu'il est prêt au départ.
Deux des terroristes, dont le chef, entrent dans le Boeing 727 par l'arrière, traversent le fuselage vers le cockpit, et là, ils voient qu'il n'y a personne.
Quand Issa va s'apercevoir qu'apparemment on lui a tendu un piège, que l'avion est vide, il va descendre précipitamment de l'avion pour rejoindre les hélicoptères et rejoindre ses complices.
Au moment de l'opération, Henning Remmers est alors élève officier dans un bâtiment proche du tarmac.
Au même moment, j'entends une voix venant de la tour de contrôle. Qu'est-ce que vous attendez? Tirez! Tirez maintenant! Et à ce moment précis, un échange de tirs complètement incontrôlé a commencé. Tout le monde a commencé à tirer.
On va voir bien sûr à ce moment-là ce qu'on appelle la loi de Murphy, c'est que tout ce qui pouvait tourner mal a mal tourné. Et là, c'est le carnage complet.
Personne n'était préparé à ce scénario. Personne.
Les tireurs allemands à la manœuvre sont loin d'être préparés à l'exercice. Aucune coordination n'existe entre les équipes.
Le problème est que les tireurs d'élite n'ont pas de moyens de communication entre eux ni de cibles définies.
Ils ne savent pas sur qui ils doivent tirer. Ils ne savent pas sur qui va tirer le voisin. Ils peuvent être en train de tirer sur l'eux-mêmes.
À 22h45, alors que les tirs n'ont commencé que depuis quelques minutes, les terroristes tirent sur les projecteurs de l'aéroport.
À ce stade, on a des terroristes qui sont dans les hélicoptères sur les otages. Les otages sont attachés sur leur siège, ils ne peuvent pas s'enfuir, ils ne peuvent pas s'échapper. On a des hélicoptères qui sont pleins de carburant, des terroristes qui sont équipés de grenades, des échanges de feu, des tirs croisés, très certainement une énorme cacophonie.
C'est un combat dans un tunnel, ça c'est sûr. On ne sait plus sur quoi on tire.
Minuit. Les hélicoptères ont atterri depuis 1h30 et l'opération est toujours en cours.
Une opération, c'est la surprise, la flagrance, créer la sidération en face et obtenir la neutralisation. Une opération, ça dure quelques secondes.
Les échanges de tirs durent à peu près 2h30.
À l'extérieur, des centaines de journalistes sont devant les grilles de la base militaire. Personne ne sait ce qu'il se passe depuis que les terroristes ont quitté le site olympique. Soudain, ils voient arriver un convoi de voitures blindées qui s'engouffre dans la zone militaire. Les autorités veulent à présent lancer un assaut pour éliminer les terroristes. La réaction des Palestiniens est radicale.
Les terroristes, voyant que la situation leur échappe, voyant également qu'ils vont mourir, vont tenter en fait le tout pour le tout.
Donc oui, l'opération se transforme en opération suicide.
Ben, c'est une guerre, il n'y a plus de négociation possible.
À minuit 4, l'un des terroristes tire dans l'habitacle de l'hélicoptère situé à l'est, avant d'y jeter une grenade.
Il y a une énorme explosion, avec une traînée bleue dans le ciel qui monte à 15 mètres, 20 mètres.
Un terroriste exécute tous les captifs présents dans l'autre hélicoptère. Dans les minutes qui suivent, l'opération arrive à son terme. 5 des terroristes sont abattus, 3 sont finalement capturés par la police allemande. Tous les otages israéliens ont finalement été tués. 2 au village olympique et les 9 autres à l'aéroport. À l'extérieur pourtant, contre toute attente, les premières nouvelles sont excellentes. Une dépêche de l'agence Reuters précise que tous les otages israéliens sont libérés.
À la radio allemande, on commence à entendre les chants en direct de Tel Aviv, d'Israël. Les chants de joie qui fêtaient la libération des otages.
Tout le monde était heureux. Golda Meir était heureuse. Tout le monde était fou de joie. Mon père a sabré le champagne.
La cacophonie qu'on a pu observer dans la préparation et la conduite de cette opération, elle se poursuit dans la communication. C'est-à-dire qu'une crise, elle n'est terminée que quand on a communiqué sur ce qui s'est passé, que les informations qu'on a données sont vraies. Et là, en l'occurrence, on va communiquer très très vite avec ce sentiment que c'est une réussite, que tous les otages sont vivants et que les terroristes ont été neutralisés.
Plus tard dans la nuit, l'annonce officielle du drame sera finalement faite, plongeant le monde dans l'horreur. Le 6 septembre, au lendemain de la prise d'otage, c'est la consternation.
Il y a eu une grande cérémonie avec une minute de silence. On a essayé de rendre hommage aux morts, mais en même temps, la décision avait été prise de poursuivre les jeux pour montrer qu'on ne se laissait pas influencer.
L'idée était qu'il fallait continuer. Sinon, ça aurait été une victoire pour les terroristes.
Le reste de la délégation israélienne quitte l'Allemagne dans la journée, avec la dépouille des otages. Pour Israël, c'est le début d'une opération. Nom de code, colère de Dieu. Une vendetta qui durera près de 20 ans. Des commandos israéliens traqueront et assassineront des dizaines de personnes censées être en lien avec la prise d'otages. Quelle conclusion tirer sur cette opération? Les négociateurs allemands auraient-ils pu éviter le carnage?
La difficulté sur Munich, c'est qu'on a agrégé le rôle de négociateur et de décideur.
Ils ont perdu leur lucidité, leur capacité de vision objective. L'enjeu, c'était la couverture médiatique. La position, c'était les prisonniers politiques. Quand on négocie sur une position qui est irréaliste, avec un enjeu qu'on n'a pas perçu, on ne peut pas réussir une négociation.
Les erreurs des équipes allemandes ne seront pas restées vaines. Munich sera un électrochoc pour les services de renseignement du monde entier.
C'est véritablement l'élément déclencheur pour la création des unités antiterroristes modernes. C'est-à-dire que 90% viennent là.
Tout ce qu'il ne faut pas faire a été fait. C'est l'exemple qui était indispensable pour se poser la vraie problématique. Comment faire pour ne pas faire refaire la même chose que les Allemands?
C'est pour nous la genèse de notre métier. Le métier de négociateur de crise et de négociateur en groupe d'intervention a été pensé après Munich.